Coucou Victor.
Coucou Boris.
On a été sollicité pour discuter des œufs. Il y a plusieurs personnes qui voudraient qu'on aborde ce thème qui est effectivement un sujet assez controversé où on ne sait pas toujours comment se repérer. Alors, donc si tu es d'accord, j'ai quelques petites questions à te poser sur les œufs.
Je suis d'accord. Allons-y.
Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est très controversé parce que les œufs c'est riche en cholestérol, c'est riche en graisse, et puis comme on a cru longtemps que c'était que le cholestérol et les graisses étaient dangereuses, bref du coup les œufs incarnaient un peu Satan en quelque sorte. Et puis finalement quand on y regarde de plus près, on va voir que les œufs sont pleins de bienfaits et qu'ils ne sont en réalité pas dangereux et certainement bien moins dangereux que vous ne le pensez. Alors, pour commencer, Victor, déjà, à part une poule éventuellement, que trouve-t-on dans un œuf?
Alors, un œuf pèse environ 60 grammes, donc un œuf d'une poule normale. Alors, ça peut être plus petit et plus gros, bien évidemment, en fonction de la taille de la poule. Et alors, à l'intérieur de l'œuf, quand on retire la coquille, bien sûr, le blanc est composé en majorité d'eau et un peu de protéines. Et le jaune, lui, est composé de protéines, de lipides, et il contient la plupart des oligo-éléments et des vitamines. La composition de 100 g d'œuf, on aura 75% d'eau, 12% de protéines, et 10% de graisse ou lipides, avec notamment des acides gras oméga-3 à longue chaîne, comme l'EPA et le DHA, et environ 300 mg de cholestérol. On aura aussi beaucoup de vitamines, comme la K2 et la B9, et des oligo-éléments, comme le sélénium et l'iode.
Et on peut rajouter aussi la choline, mais on va peut-être en rediscuter après. Alors la choline, c'est pas vraiment un acide aminé, c'est pas vraiment une vitamine. Bon, bref, c'est un nutriment essentiel qui est donc très très important pour le cerveau. Victor, déjà pour aller faire ses courses, aller choisir ses œufs, est-ce que tu peux nous donner quelques orientations?
Alors pour faire simple, on va commencer par les œufs sans label. Donc ce sont des poules élevées en batterie qui vivent les unes sur les autres et qui sont gavées d'antibiotiques parce que le risque infectieux est énorme dans ces conditions d'élevage. Donc on se retrouve avec des œufs de qualité assez mauvaise globalement. Ensuite, on va voir les œufs qu'on retrouve dans le commerce, les labels bio et les labels rouges. Alors ce sont deux chartes qui sont assez proches en termes de qualité. Les poules sont au sol, elles ont de la place, elles ont accès à des espaces extérieurs et elles ont accès à une alimentation de qualité. Et puis le dernier cas de figure, c'est les œufs fermiers de votre fermier du coin. Donc là, vous pouvez aller vérifier vous-même les conditions d'élevage. Souvent, c'est des poules qui ont de la place, qui peuvent courir et qui ont une alimentation très variée. Parce qu'elles vont également finir les restes de la maison et pouvoir gratter de la terre, manger des vers de terre, des petits insectes. Donc c'est vraiment le mode d'élevage idéal pour une poule.
Et là, Victor, tu parles des œufs de poule, mais est-ce que tu peux nous citer d'autres œufs qu'on peut manger? Alors, il y a les œufs de caille, par exemple, sont tout petits, mais il y a d'autres œufs plus gros qu'on peut manger?
Oui, bien sûr, on retrouve habituellement dans le commerce des œufs de canne et des œufs d'oie, et parfois des œufs d'autruche. Donc, c'est surtout la taille des œufs qui change, et des fois le goût un tout petit peu. Bien sûr, vu la différence de taille des œufs, ces œufs se prêtent à des modes de consommation différents des œufs de poule. Donc ça sera plutôt en omelette ou alors en œuf à la coque. Mais au niveau de la composition de l'œuf, on va rester très proche de ce qu'on retrouve dans un œuf de poule.
Très bien, très bien. Alors toujours pour choisir nos œufs, il y a des œufs de différentes couleurs, les blancs, les œufs roux, mais il y a aussi des œufs qui tirent sur le rouge, certains tirent sur le vert, certains tirent même sur le bleu. Ça existe, alors on en voit assez peu dans le commerce. Et avec tous ces labels, est-ce que tu peux nous aider à nous y retrouver pour choisir l'œuf qu'on souhaite?
Alors tout d'abord, la couleur de la coquille, ça dépend de la race de la poule et donc ça n'a aucune importance vis-à-vis de la consommation. Ensuite, la couleur du jaune, elle dépend en partie de l'alimentation de la poule. La couleur du jaune a peu d'importance, sauf les jaunes très très pâles qui sont en général la couleur qu'on retrouve pour les poules élevées en batterie avec une alimentation très peu variée et de mauvaise qualité. La taille de l'œuf, elle, est en fonction de la taille de la poule, et donc elle n'a aucune importance. Le mode d'élevage, lui, il influence la composition de l'œuf, et donc il a beaucoup d'importance. Les œufs enrichis en oméga-3 ne sont pas utiles, sauf chez le végétarien, carencé en acides gras oméga-3 essentiels à chaîne longue. Donc chez les végétariens, l'œuf peut être une bonne alternative pour trouver ce type d'acide gras qui n'est pas présent dans l'alimentation végétale. Et ensuite, Les vieux œufs qui sont à éviter, donc normalement un œuf frais, quand on le plonge dans l'eau froide, il coule, il tombe au fond de la casserole. Donc c'est un test assez facile à réaliser pour être sûr que vous avez des œufs frais.
Bon, il reste plus qu'à nous donner des recettes, mais tu as déjà commencé avec les œufs à la coque. Je veux juste rebondir sur la couleur du jaune. La couleur du jaune, en réalité, sur les œufs de batterie, devrait être très très clair, très très pâle, un jaune qui n'est pas vraiment jaune. Et en fait, ils trichent parce qu'ils ont le droit d'ajouter des colorants à base de lutéine ou autre pour colorer ce jaune et le rendre un petit peu plus jaune, voire un petit peu plus orange, pour qu'il ressemble davantage à un œuf normal, hein, de poule élevée de façon normale. Voilà, donc du coup, effectivement, c'est devenu un critère qui n'est pas facile et pas fiable, sauf s'il est vraiment très pâle. Là, on a la preuve qu'il est de mauvaise qualité, mais sinon, comme ce genre de ce que nous on appelle triche, hein, est autorisé, alors dans ce cas-là, ça devient difficile de différencier sur la base de la couleur du jaune. Pour revenir à du pratico-pratique, souvent les patients ou les amis, les voisins nous demandent, mais finalement, combien d'œufs on peut manger au maximum? Parce qu'il y a une époque où on disait, oulala, pas plus de 2 œufs par jour, puis c'est devenu à 2 œufs par semaine, puis bientôt peut-être ce sera 2 œufs par an. Et du coup, est-ce qu'il y a une limite au nombre d'œufs qu'on peut manger par personne, par jour, par semaine?
Ben non, en fait, il n'y a aucune limite sur le nombre d'œufs que l'on peut manger par jour ou par semaine. Alors, pour ma part, et toi, Boris, je crois que c'est à peu près pareil. Moi, quand je mange des œufs, j'en mange entre 6 et 12 sur un repas. Et puis, ce type de repas composé d'œufs, c'est une à deux fois par semaine. Donc, on va dire que je mange entre 12 et 24 œufs par semaine. Je tiens à préciser que ça représente pas mal d'œufs, mais je ne mange qu'une fois par jour.
Pareil, en général, c'est one meal a day, un repas par jour, sauf exception. Et dans ce cas-là, c'est volontiers pour moi une douzaine d'œufs, ou peut-être un petit peu moins, ça dépend de la taille des œufs. Et s'il y a 2 repas par jour, bah, ça peut être 4, 5, 6 œufs, effectivement, selon la taille, sur l'un des repas. Et du coup, qui peut ou ne peut pas manger des œufs, Victor?
Tout le monde peut manger des œufs. Même chez le bébé, à partir du moment où il commence l'alimentation solide, c'est-à-dire vers 6 mois, on peut tout à fait lui donner à manger des œufs. Alors, une petite particularité, l'allergie aux protéines de l'œuf, qu'on retrouve chez environ 2,5% des enfants. Alors, ce n'est pas une allergie mortelle, hein, contrairement à une allergie comme l'allergie à l'arachide. Et en général, c'est une allergie qui va disparaître au cours de la croissance.
Finalement, on est plus dans l'intolérance que dans l'allergie, c'est ça, quelque part.
Oui, c'est plus une intolérance en fait. Chez ces enfants, les protéines de l'œuf vont entraîner une sécrétion d'histamine qui peut un peu leur piquer la gorge, donner les yeux qui pleurent, les faire éternuer. Mais on ne va pas être vers une allergie qui va entraîner un œdème de Quincke ou un choc anaphylactique qui va devoir être hospitalisé en réanimation. On n'arrive jamais dans ce genre de cas de figure. Voilà, et aussi ces allergies aux protéines de l'œuf chez les enfants qui en sont touchés peuvent donner des diarrhées, des ballonnements et des douleurs pendant la digestion.
Alors, petit focus pour les pratiquants du régime cétogène qui sont de plus en plus nombreux à nous solliciter, à nous regarder. Et c'est vrai que c'est important parce que dans une certaine mesure, on fait la promotion d'un régime cétogène avec pas mal de précautions néanmoins. Est-ce que l'œuf est compatible avec un régime alimentaire de type pauvre en sucre riche en graisse, low carb high fat, donc de type cétogène?
Oui, bien sûr, l'œuf est compatible avec un régime cétogène de type high fat, middle prot, low carb, et c'est même un aliment qui est excellent pour le régime cétogène.
Venons-en au risque des œufs. Quels sont les risques en pratique présentés par les œufs?
Alors, pour ma part, le risque principal, c'est de casser la coquille avant d'être au-dessus de la poêle. Après, je dirais que sur les risques, on va dire un petit peu plus sérieux, on a en théorie, un risque infectieux où l'œuf pourrait être contaminé par la salmonelle. C'est rarissime. Moi, j'en ai jamais vu dans ma carrière de médecin. Boris, je crois que toi non plus, j'en ai même jamais entendu parler. Mais bon, voilà, c'est un risque. On sait que ça existe, quoi.
Très bien. Et a fortiori, si l'œuf est cuit, en plus le problème est réglé. La salmonelle, c'est une bactérie naturelle de l'intestin. Hein. On en trouve chez l'homme, même chez des gens qui vont bien, on peut en trouver. Ce n'est pas une bactérie qui est à 100% pathogène. Et puis, il y a des infections à salmonelle, et c'est la plupart d'ailleurs, qui passent tout à fait inaperçues. Hein. Alors, certaines peuvent poser d'autres problèmes chez des gens qui sont notamment immunodéprimés, etc. Chez éventuellement la femme enceinte. Bon, voilà, mais ça, c'est des cas particuliers.
Oui, et puis c'est surtout si on mange l'œuf cru. La cuisson résout le problème.
Bon, alors, pour terminer, quelles sont les vertus? Les vertus séquoia santé des œufs?
Alors, les œufs combinent les vertus des aliments d'origine animale sans la phase abattage. Et donc ça devrait plaire à de nombreux végétariens ou véganes qui peuvent s'intéresser aux œufs. À savoir, les œufs contiennent de la choline, qui est un nutriment essentiel pour le cerveau, et donc qui n'est pas présent dans l'alimentation d'origine végétale.
Et dont nous sommes très carencés aujourd'hui. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'on ne parle pas assez de la choline, et on est très nombreux à être carencés en choline. Donc attention, c'est très important.
Ensuite, les œufs contiennent de nombreuses vitamines et oligo-éléments, comme le sélénium et l'iode, qu'il est parfois difficile de trouver ailleurs. Donc pareil, très intéressant chez les végétariens. Ensuite, on a de bonnes graisses dans les œufs, donc on a des acides gras polyinsaturés de type oméga-3 à chaîne longue. Et on a beaucoup de cholestérol. Et donc le cholestérol, c'est une molécule qui est très utilisée par l'organisme pour fabriquer les hormones stéroïdes et pour supporter le cerveau. À ce titre, je pense qu'on fera un podcast sur le cholestérol pour essayer de débrouiller quelques idées reçues. Mais en tout cas, voilà, pas du tout de risque à consommer des œufs en raison du cholestérol présent à l'intérieur. Un autre avantage est que les œufs ne sont pas chers par rapport à leur densité nutritionnelle. On parle d'un aliment à 5 euros le kilo. Et dernier avantage, l'œuf est un aliment cohérent avec un régime high fat, middle prot, low carb, donc un régime de type cétogène. L'œuf contient un rapport d'environ 50% à 50% en lipides protéines. Et donc environ 75% de l'énergie de l'œuf contenue dans les lipides et 25% contenue dans les protéines.
Bon, mais je crois que c'est très clair. Merci Victor. Effectivement, oui, des aspects aussi financiers, parce que des aliments pas chers, on en trouve, mais des aliments aussi vertueux et qui coûtent aussi peu cher, eh ben, l'œuf est imbattable. Donc ça, c'est quand même un point aussi important. Bon, ben on va conclure ce podcast. Merci Victor. En tout cas, là, au cas où vous ne l'auriez pas compris, l'œuf, c'est vraiment un aliment qui a une place de choix dans un régime cétogène, qui a une place de choix dans un régime où on veut prévenir un certain nombre de carences ou les corriger, que ce soit en choline, que ce soit en certains oligo-éléments. Hein. On a parlé de l'iode, et quand on n'habite pas à côté de la mer ou quand on ne mange pas des poissons ou des fruits de mer, et qu'on est au milieu des terres, eh ben, ça peut être une façon très astucieuse de prévenir des déficits en iode, par exemple. Bref, vous l'avez compris, l'œuf est vraiment important dans notre alimentation, qu'il vient vraiment compléter. Par ailleurs, vous savez à quel point c'est important pour nous que les aliments et nos comportements soient pléisto-cohérents, hein, c'est-à-dire cohérents avec la paléoanthropologie et avec la biologie de l'évolution. L'œuf est cohérent à ce titre-là, puisque les chasseurs, beaucoup cueilleurs un peu que nous sommes et que nous étions, bien sûr, sont largement compatibles avec la récolte d'œufs, même si, bien évidemment, ce n'était pas des douzaines et des douzaines d'œufs de poule par jour qui étaient mangés, bien sûr. Néanmoins, c'est pléisto-cohérent, et ça, c'est important.
Merci Boris pour toutes tes questions.
Eh bien, à bientôt pour un prochain podcast. Merci de nous avoir suivis jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à notre chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rien rater. À la semaine prochaine pour un prochain podcast. En attendant, rendez-vous sur notre site www.sequoiasante.com. Abonnez-vous à la newsletter si ça n'est pas déjà fait et téléchargez notre e-book offert qu'on a co-rédigé avec Victor. En attendant, prenez soin de vous.
À bientôt, prenez soin de vous.